Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Et nous évoquons l'un des enjeux consécutifs à l'élargissement de l'Union européenne, un enjeu qui curieusement ne s'est pas invité dans le débat référendaire sur la Constitution. Il s'agit de la question linguistique. Vous savez qu'il y a au cœur de la question européenne une question maîtresse: avec quelle langue devons-nous nous parler? En quelle langue devons-nous nous parler? Et ce n'est pas une question annexe, nous allons le voir dans un instant avec vous, Hervé Lavenir de Buffon. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes secrétaire général du Comité international pour le français langue européenne, présidé par l'archiduc Otto de Habsbourg.
Exactement.
Vous êtes également président du Centre d'études et d'action européenne, du Comité pour la Méditerranée. Un mot peut-être du Comité international pour le français langue européenne, de l'archiduc Otto de Habsbourg, pour le resituer dans son origine historique.
Eh bien, il s'agit, l'organisation des comités pour le français langue européenne groupe maintenant une cinquantaine d'associations nationales ou régionales. J'appelle régionales par exemple les Länder en Allemagne, parce qu'ils ont la responsabilité de l'éducation. Et quel est le but de cette organisation? C'est, par des personnes non françaises, de mener une action d'information et de persuasion pour faire adopter le français, si possible, comme première langue étrangère des pays non francophones d'Europe, de l'Union européenne et du bassin méditerranéen. Je dois dire que, j'y reviendrai peut-être, ces étrangers croient beaucoup au français, à l'avenir de la langue française, et en cela on voit qu'ils sont des étrangers, parce que beaucoup de Français n'y croient plus.
Voilà un défi bien sûr qui va nous occuper pendant une bonne partie de cette émission, mais d'abord un mot sur vous-même. Vous êtes un ancien fonctionnaire européen, 1961-68.
Oui. J'ai d'abord été fonctionnaire français, mais j'ai quitté l'ENA en cours de scolarité parce que l'Europe m'attirait beaucoup.
Et vous avez démissionné de l'ENA.
Oui, je ne veux pas jouer les renégats, mais enfin, c'est un fait. Il faut croire que ça n'a pas été jugé trop sévèrement, puisque ce sont les autorités françaises qui m'ont fait nommer à Bruxelles. D'où je suis parti, d'ailleurs, pour venir au cabinet de M. Couve de Murville, m'occuper d'un certain référendum sur la régionalisation.
Bruxelles, à une époque où c'était l'Europe des Six.
C'était l'Europe des Six, et des quatre langues officielles, français, allemand, italien, néerlandais. Mais je dois dire que l'on servait du français à 95% des travaux, pour 95% des travaux. Et ça fonctionnait très bien, sans un mot d'anglais.
C'est-à-dire que le français était déjà, de manière tacite ou naturelle, la langue de travail commune.
Absolument. Absolument, du fait que, puis enfin, il y avait les lendemains de la guerre, on n'était pas tellement loin, ça faisait 15 ans. Et puis, vous savez, entre un Italien et un Belge, il était normal de parler plutôt français que, si c'était un Flamand, qu'allemand. Et puis, le Néerlandais, je dois dire, tout se passait très bien. Et il a fallu l'arrivée de la Grande-Bretagne, le général de Gaulle et M. Pompidou s'en étaient rendu compte, pour troubler ce bel équilibre européen.
L'anglais ne s'était pas invité au cœur des débats. Pas
non,
encore.
Non, mais les Anglais posaient des conditions dès le départ pour accepter ce qu'ils exigeaient. C'était ainsi. Donc il y a eu ensuite, il faut bien dire, vous avez enchaîné sur cette question, je vous suis. Et nous sommes maintenant en état de guerre linguistique en Europe. Et pour deux raisons, c'est que les Anglais comme les Américains considèrent comme Churchill que les empires de demain sont les empires de l'esprit. Il disait mind, je crois que ça veut dire esprit ou intellect. Et que on considère d'autre part que si, du côté américain, que si le monde adopte l'anglais comme langue dominante, c'est ce que m'a dit un sénateur américain un jour à Washington, ça sera beaucoup plus facile. Un monde, un marché, une langue, une monnaie. Alors évidemment, on peut appeler ça aussi de l'impérialisme.
Faisons un bond dans l'histoire, revenons à l'actualité. Aujourd'hui, 25 pays dans l'Union européenne, la question linguistique est déjà un casse-tête. Il faut déjà en parler de cela.
Bien sûr, c'est un grand enjeu et je pense que tout de même le mot casse-tête appelle des solutions. Et ces solutions, on peut les trouver assez facilement. Ce qui est surprenant, c'est que dans la Constitution qui est soumise à référendum, comme vous le disiez, curieusement, on en parle très peu. Je dirais même que la question est pratiquement escamotée, comme celle de la capitale d'ailleurs. Un article tout petit, caché dans un coin du texte, dit que ces deux questions sont réglées par accord entre les gouvernements. Eh bien, c'est singulier parce que la plupart des constitutions dans le monde entier règlent la question du choix de la capitale ou de la langue. Et vraisemblablement, enfin, nous y reviendrons. Cette affaire de langue, on en reparlera, mais actuellement, on peut dire que le sujet principal, c'est de savoir non pas ce qui se passera dans les institutions, parce que par la force des choses, chacun exige que sa langue soit respectée, mais ce qui se passera au niveau des populations. Quelle sera la langue qui permettra, vous le dites, c'est encore plus aigu à 27 qu'à 6 ou à 7 ou à 15, et le tout est de savoir comment et qu'est-ce qui permettra aux Européens d'avoir non seulement un moyen de communication et de mobilité de la main-d'œuvre, parce que si l'on parle d'économie, c'est aussi parce que la main-d'œuvre doit pouvoir se circuler à travers l'Europe. La fameuse directive Bolkestein, c'est ça. Eh bien, comment voulez-vous que la mobilité professionnelle soit assurée sans une certaine communication linguistique d'un pays à l'autre assurée par une langue véhiculaire?
Là, vous opposez les peuples aux institutions.
Je ne les oppose pas, mais je dis que finalement, ce qui se passe dans les institutions est tout de même beaucoup moins important que ce qui se passe au niveau de la population générale en Europe. Comme le disait l'archiduc de Habsbourg, finalement, au niveau des institutions, bon, il y a un coût des traductions et interprétations simultanées.
Combien ? 11 000 interprètes ?
Peu de noms, pas autant, mais si vous calculez le nombre de filières de traduction, c'est-à-dire du français vers l'allemand, mais aussi du français vers toutes les autres langues, et réciproquement, on arrive à des coûts extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse s'expliquer dans sa langue, et nous, ce que nous avons proposé depuis longtemps, c'est d'adopter une langue pivot, c'est-à-dire une langue vers laquelle on traduit toutes les interventions, par exemple en français, et ensuite du français vers les autres. Ça diminue quand même considérablement le nombre des filières, si je me suis...
Un détail, est-ce qu'aujourd'hui il existe des interprètes pour traduire du lituanien en maltais ?
C'est difficile à trouver. C'est très difficile à trouver. On est obligé de passer par d'autres langues. Enfin, il faut dire que la réalité, c'est que pratiquement le français, comme l'anglais et même l'allemand, pour Malte, l'italien, sont suffisamment connus pour qu'on trouve presque toujours un maltais qui parle italien ou français ou...
On revient à un premier cercle de langues.
Oui. D'ailleurs, puisque nous parlons de Malte, je vous signale que, comme dans beaucoup d'autres langues européennes, on trouve beaucoup de mots français dans la langue de Malte, qui est la dominante pour ses origines d'arabe, mais c'est dû sans doute aux chevaliers de Malte qui ont introduit dans la vie quotidienne des Maltais beaucoup de mots français.
Bon, la question linguistique à l'échelle européenne sur le plan institutionnel, c'est quand même... une chose qui doit être résolue. Il faut trouver une solution.
Absolument, il ne faut pas l'escamoter comme on l'a fait.
Mais est-ce vraiment un souci pour les hauts fonctionnaires européens dans la mesure où l'anglais, on y vient, l'anglais de toute évidence est aujourd'hui la langue véhiculaire ?
Non, excusez-moi. Dans les institutions européennes, on ne peut pas simplifier comme ça. Dans toutes les institutions judiciaires de l'Europe, c'est le français qui domine. À la Cour de justice, tout se fait en français. Dans la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, on peut en lire autant. Qu'on le veuille ou non.
Et pourquoi ?
Pour une raison très simple, c'est que le français, qui est une langue latine, héritière du latin de la romanité, a une sorte de prédisposition pour le droit. Et dans le droit, on ne peut pas plaisanter, il faut que ce soit précis. C'est ce qu'en fait également la langue diplomatique. Rappelez-vous, on l'a cité bien souvent, mais c'est vrai, les incidents auxquels a donné lieu, ou les discussions interminables auxquelles donne lieu tel ou tel texte des Nations Unies sur l'évacuation des territoires ou de territoires. En français, c'est très clair. Si vous dites les territoires, ce sont les territoires.
L'anglais n'a pas l'article partitif qui permet de préciser les choses.
Absolument, absolument. Et si le français est devenu la langue diplomatique du monde, elle est restée elle est restée, en dépit des défaites de la France après les guerres napoléoniennes ou la guerre de 1870, ce n'est pas dû, ça prouve bien que la prédominance du français dans le domaine diplomatique n'était pas due à un pouvoir ou à une puissance dominante de la France, mais aussi aux qualités propres de la langue.
Mais cette prédominance demeure ?
Oui, et puis je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est une interprétation que peuvent soutenir nombre, avec beaucoup de raisons, nombre d'historiens. Le destin du français et de l'Europe a toujours été très lié. À partir du moment où l'Europe émerge des sombres années de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, une langue tout de même apparaît, en dehors du latin bien sûr, c'est la lingua franca, la langue des Francs. Et pourquoi ? Regardez, Marco Polo a écrit son livre des merveilles en français. Dans les royaumes du Levant, après les croisades, c'était le français qui était la langue commune, on l'oublie un peu trop. Pourquoi ? Parce que le français est en quelque sorte la langue carrefour de l'Europe. Il est aux confins de la latinité et de la germanicité. N'oubliez pas que l'anglais est le fils un peu bâtard du français, né de la rencontre des guerriers et des seigneurs de Normandie avec la population anglaise qu'ils colonisaient. L'Angleterre a été notre première colonie. Et si on dit encore « Niçois qui mal y pense et Dieu est mon droit », c'est parce que le français était la langue de la cour, et pas seulement de la cour, mais la langue de toutes les élites en Angleterre jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, le français, à la limite ou entre les pays latins et germaniques, a influencé aussi toutes les autres langues de l'Europe. S'il y a 70 à 72% des mots anglais qui viennent du français, sans parler de ceux qui sont un peu cachés, vous connaissez le mot tennis qui vient de ce que l'on se criait au début de la partie de jeu de paume, tenez, tennis. Et il y a aussi beaucoup de mots auxquels on ne pense pas, comme to fail. Manquer de, c'est la défaillance que l'on retrouve, ou d'autres mots comme to grieve, le grief.
C'est très amusant d'ailleurs d'avoir une double lecture des termes linguistiques.
On s'aperçoit que le français a donné énormément de mots à l'anglais, et beaucoup plus que l'anglais ne nous en a donné. Et puis, ça reste vrai aussi pour beaucoup d'autres langues, pour le russe, pour le slave, pour le suédois.
Vous parlez russe couramment.
Oh, c'est une belle langue et, mon Dieu, vous savez, apprendre une langue, c'est aussi en s'embarquer pour un autre pays, une autre civilisation, j'allais dire d'autres rêves. Si, toutes les langues sont faciles, en fait.
On reste en Europe et dans cet éloge de la diversité culturelle avec Hervé L'Avenir de Buffon, on marque une première pause.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Quelle langue pour l'Europe ? That is the question, avec Hervé L'Avenir de Buffon, qui est secrétaire général du Comité international pour le français langue européenne, dont le président est l'archiduc Otto de Habsbourg. On parle de l'importance du français, bien sûr, en Europe, et des liens d'amitié, qui ne sont pas forcément aussi des liens d'hostilité, il faut le rappeler, entre le français, bien sûr, et l'anglais, et puis l'influence du français sur les autres langues. À l'instant, vous évoquiez le russe. Je reviens aux institutions européennes parce que vous parliez de l'Europe judiciaire qui se construit plutôt en français. Alors, quelle est l'Europe qui se construit en anglais ? C'est l'Europe du marketing, du marketing ?
J'allais vous dire, c'est la non-Europe. Il y a à considérer tout de même des réalités. Que faut-il actuellement considérer comme la langue la plus utile pour un jeune français ou une jeune française? Est-ce nécessairement l'anglais? Ça n'est pas sûr du tout. Notre principal partenaire économique et politique est l'Allemagne. D'autre part...
Mais les Allemands s'adressent souvent à nous en anglais.
Oui, mais parce que nous sommes souvent, les Français sont souvent les premiers à leur donner l'exemple et au détour d'une conversation, on dit « Écoutez, parlez français, je comprendrai mieux que votre anglais. » Je ne veux pas dire de méchanceté contre un académicien récemment élu après avoir exercé de hautes fonctions dans la République, mais qui parle anglais volontiers, assez mal, je dois le dire.
Et on ne citera pas son nom ni ses initiales.
Je m'en garderai bien, mais enfin, ce snobisme de l'anglais qui fait que dans la dernière des bourgades, chef-lieu de canton de la France profonde, certaines banques, que je ne citerai pas non plus, croient bon d'infliger à qui téléphone des ritournelles en anglais, alors que les habitants ou bien ne comprennent pas, ou bien s'il y a des Anglais ou des Américains installés dans la région, comme les Anglais le font dans le Limousin, eh bien, ils parlent français généralement. Je sais bien que, et là c'est encore un exemple de manque de conscience linguistique, certains maires du Limousin, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui viennent, disent à leurs administrations d'apprendre le anglais. On pourrait peut-être suggérer aussi aux Anglais qui viennent en France d'apprendre le français.
On m'a dit dans le Limousin que si, par exemple, dans un village déserté par les Français, on devait ouvrir une école, ce serait une école en anglais.
Ce qui est ridicule et inadmissible. D'autant plus que je voyais l'autre jour une émission représentant une école en Bretagne où se trouvaient quelques petits Anglais en classe. Eh bien, ils parlaient très bien français parce que dire que le français, prétendre que le français soit difficile n'est pas une bonne raison. Le français n'est pas plus difficile qu'une autre langue et je crois que tous ceux qui l'apprennent sous toutes les latitudes ne sont pas nécessairement des Einstein.
Bon, mais alors, les institutions européennes, vous me dites, c'est la non-Europe qui se construit en anglais, mais c'est quand même...
Non, elle ne se construit pas en anglais, pas encore. Je dis qu'il y a un énorme effort fait par les Américains et les Anglais pour lutter contre l'anglais, contre le français, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est le grand rival. Mais enfin, je voudrais citer quelques personnes qui ne sont pas les dernières. Par exemple, le président fédéral allemand, M. Johannes Rau, qui a cédé récemment ses fonctions au nouveau président, M. Horst Zoller, disait « L'Europe a besoin de lutter contre plusieurs périls, nous dit-on, mais l'un des principaux, c'est l'américanisation. » Et il ajoutait « Je souhaiterais, pour ma part, disait le président Rao, que le français redevienne la première langue étrangère dans mon pays, l'Allemagne. » L'ancien ministre des Affaires étrangères de Hongrie, M. Martoni, qui a cédé le pouvoir à son successeur il y a quelques mois, disait récemment, il l'a publié, « Je vois mal que l'identité de l'Europe puisse s'affirmer par une autre langue commune que le français. » Et il ne cachait pas son idée que si c'était l'anglais, ce serait désastreux pour l'Europe, ce serait l'américanisation. En fait, on ne s'en rend pas compte. Souvent, et c'est pour ça que peut-être on a escamoté la question des langues, le choix d'une langue véhiculaire pour l'Europe, tout en respectant la diversité de l'Europe, c'est-à-dire tout en respectant les langues nationales et même régionales.
On en dira un mot d'ailleurs des langues régionales.
Bien sûr. Eh bien, ce choix sera décisif pour la civilisation de l'Europe. Car si l'Europe devait être américanisée, c'est-à-dire passer au rouleau compresseur quant à la diversité culturelle, serait-ce encore l'Europe ? Je crois que De Gaulle et Pompidou disaient non, ce ne serait plus vraiment l'Europe. Et l'autre jour, le grand journal italien Corriere della Sera disait, il y a 12 raisons, je ne les énumérerai pas ici, de prendre le français plutôt que l'anglais comme langue véhiculaire de l'Europe.
Si, vous pouvez les énumérer, justement, on est là pour ça.
Elles reviennent toujours à peu près à la même, aux mêmes considérations. Il faut une langue véhiculaire pour assurer l'unification ou l'unité de l'Europe. Il faut une langue véhiculaire, c'est-à-dire, encore une fois, après les langues nationales ou régionales, il faut respecter la diversité dans ces langues-là, mais affirmer aussi l'identité de l'Europe, que l'Europe est un visage linguistique différent de celui de l'Amérique ou de ce qu'on appelle le globish maintenant.
Mais alors, si je fais le tour de toutes les personnes que vous avez cité un Allemand, vous avez cité un journal italien, vous avez cité un Hongrois.
Bien sûr.
Pourrait-il y avoir un accord, une majorité ? Je ne sais pas si la décision d'ailleurs se prend à l'unanimité ou à la majorité en Europe sur cette question-là.
Bah, c'est l'ennui avec le projet de constitution actuel, c'est que cette question essentielle n'est pas réglée, qu'entre les lignes, il y a tout de même le piège que constitue le laisser-aller en face de la guerre menée par les Anglo-Américains ou les partisans de l'anglais, en face d'un certain laisser-aller français. Il faut le dire, les Français ne sont pas conscients. Ou alors, ils ont cru que le français allait garder sa prédominance sans effort. Rappelez-vous ce qui s'est passé au tout début des institutions européennes. Le Premier ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, M. von Brentano, ou de Brentano, avait proposé que ces institutions n'aient qu'une seule langue de travail, le français. Un Flamand s'y est opposé. On l'a laissé faire, tout en acceptant que Bruxelles soit l'une des capitales provisoires des institutions européennes. Et ça a été une grande erreur de la part de la France. À l'époque, Alain Perfit disait, il faudrait vraiment que... Oh oui, mais voyez-vous, pourquoi le dire? Ça sera très encore mieux en laissant nos partenaires... Non.
Mais pourquoi cette légèreté? Aussi cette absence de considération stratégique.
Elle tient au caractère français, elle tient au conformisme des Français, à l'anglomanie, que d'autres peuples partagent. Je me rappelle un jour avoir entendu un Belge me dire, vous comprenez, quand je vois pour Sabena, la défunte Sabena ou presque, le sous-titre Belgian World Airlines, j'ai l'impression que la Belgique grandit. C'est un peu ça. On a l'impression que certains croient, parce qu'ils parlent anglais généralement assez mal, je ne suis pas un expert, je dois le dire tout de suite, et bien, ils deviennent internationaux. C'est comme... Non, ça fait partie...
Qu'ils accèdent à une forme d'élitisme mondial.
Oh, pas d'élitisme, de conformisme malheureusement très médiocre.
Mais l'Europe, c'est d'abord une construction, vous allez me reprendre certainement, mais c'est d'abord ou aussi une construction commerciale, économique. Et n'était-il pas logique, somme toute, que ce soit l'anglais qui devienne la langue naturelle de l'économie et du commerce?
Mais pourquoi naturelle? D'abord, premièrement, je crois que l'Europe n'est pas du tout d'abord une construction économique. Même Jean Monnet le disait, j'aurais dû commencer par la langue et par la culture.
Dans les faits, la CEE, la CK, ce sont d'abord des ententes économiques.
Ce sont des ententes à finalité politique qui ont décidé de partir de l'économie. Vous savez, le traité de Rome, l'acier et le charbon, oui, mais non. L'Europe, c'est d'abord... Une nation ne se fait pas sur des entités économiques, elle se fait sur un vouloir vivre commun, sur une aspiration à défendre des traditions, une langue.
Oui, mais c'est votre point de vue, mais l'évolution de l'histoire...
Toute l'évolution de l'histoire
conduit...
prouve que les nations sont faites sur la langue, pour commencer.
À ce point.
Je pense que toutes les guerres du 19e siècle, les guerres des nationalités, on a dit ensuite que c'était une Europe fondée sur des patois. Peut-être qu'on pourrait dire qu'entre le croate et le serbe, c'est une différence patoisante. Mais enfin, c'est quand même la langue qui donne la conscience d'être. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pense, je ne parle même pas, de parler ou d'écrire autrement que dans une langue? Est-ce que vous pouvez penser sans l'exprimer en des mots intérieurement à votre esprit? Non.
Si on pense dans une langue étrangère, on entre dans un état de dépendance mentale par rapport au schéma de pensée du pays étranger.
Vous ne pensez pas en allemand comme on pense en français, c'est tout à fait différent.
Par exemple ?
Oh, c'est toute une question d'atmosphère.
Est-ce que vous parlez allemand couramment également?
Eh bien, je ne sais pas, je pense à ce que disait Goethe, par exemple, dans un petit poème qui est très souvent cité, « Ich ging im Walde so für mich hin ». Eh bien, c'est germanique, c'est la forêt, c'est la grande forêt, c'est la nature. Ça n'est pas comme si un Français disait « j'allais me promener ainsi parce que j'en avais envie ». Non, c'est « il y a quelque chose de plus sensible » et la langue. D'ailleurs, c'est très curieux.
L'attachement des Germains à la forêt, très fort.
Oui, et puis vous savez qu'on a fait des études très poussées sur le développement de l'enfant avant même sa naissance. Vous lui faites entendre des mots de sa langue maternelle, celle de sa future maman, enfin de sa mère, et vous lui faites entendre soudain une langue étrangère, il réagit immédiatement et de façon négative parce que la langue est pour lui un élément naturel. Les langues sont des choses très physiques, il faut bien le dire. Elles correspondent à la nature même de la personne et de l'être. Et je crois que sans vouloir ramener les humains à la qualité de robots, nous sommes tout de même très liés par ces effets de neurones, si je peux dire.
Alors j'en reviens à cette question. Permettez-moi d'insister sur cet aspect. On a été un quelque peu rassurés avec cette Europe judiciaire qui se construit en français et le reste de l'Europe qui, semble-t-il, s'écrit en anglais. Mais ça, vous le contestez ou...
Je ne l'écris pas en anglais. Il y a des progrès de l'anglais, mais je serais content, assez enclin à dire que, et j'en suis content, que il y a une réaction qui s'est faite et qui s'affirme. En 99, il y avait, s'était réuni à Florence, une conférence qu'on a appelée, Dieu sait pourquoi, la conférence des réformateurs, où le président américain, M. Clinton, qu'on devrait appeler Clinton d'ailleurs, parce que sa famille est originaire des Cévennes, où poussait le cépage Clinton. Enfin, quoi qu'il en soit, le président américain et le chef de la délégation britannique ont proposé à cette conférence, où il y avait 160 ou 180 délégations, d'adopter une seule langue de travail, l'anglais. Eh bien, pour la première fois, c'est avec indignation, véritablement, que tout le monde a repoussé l'anglais comme seule langue. C'est une date qui devrait être rappelée. Et d'autre part, je vous disais, une réaction se fait dans tous les pays d'Europe. Elle est très perceptible et contre l'américanisation et contre l'anglais. La loi tout bon. Je dois rappeler, d'ailleurs, que le Comité pour le français et langue européenne avait déjà, avec M. Baz et avec M. Lauriol, député d'Alger, avant M. Toubon, déjà suggéré qu'on prenne une loi fixant la nécessité du respect de la langue, comme l'ont fait les Québécois. Et cette loi Toubon a eu pour conséquence heureuse que dans toute l'Europe, maintenant, vous avez des lois Toubon. Non seulement en Allemagne, on envisage maintenant de faire une langue, de faire une loi, d'adopter une loi conforme à cette loi, qui reprenne en gros pour l'allemand les dispositions de la loi Toubon. Vous avez d'ailleurs une grande association en Allemagne qui s'est créée, qui compte des dizaines de milliers de membres, qui le Verein zur Wahrung der deutschen Sprache, l'association pour la défense de l'allemand, qui agit et qui commence à trouver inacceptable, à juste titre, que Francfort ait plus l'allure d'une ville de langue, j'allais dire, anglo-ricaine qu'américaine. Mais c'est nécessaire. Si on doute de l'utilité de ces lois, qu'on se rappelle ce qu'a été au Québec, la loi qui a permis de rendre au Québec son visage français. À Montréal, on pouvait se croire dans une ville américaine avant cette loi, mais maintenant, les boutiques et tout étant signalées en français, comme c'est normal, c'est redevenu une ville d'apparence française.
On marque une deuxième pause. Très bien.
Thank you.
Canal Académie.
Avec l'anglais, c'est toujours un peu « je t'aime, moi non plus hein, » sur cette question des langues en Europe. Quelle langue doit servir de langue de travail commune ? Alors c'est le français bien sûr pour vous, Hervé Lavigne de Buffon, puisque vous êtes secrétaire général du Comité international pour le français langue européenne, dont, je le rappelle, l'archiduc Otto de Habsbourg est président. Il y a une question que l'on peut aborder, c'est que le français est indispensable pour accéder à certains concepts. On l'a vu dans votre explication sur l'Europe juridique, hein, qui se construit avec des mots français. Et que fait-on des langues minoritaires ? Peut-on leur appliquer le principe d'espèces menacées en voie de disparition, de protection des espèces ? Que vont-elles devenir dans cette Europe
oui
à 25 ?
Oui et non. On remarque que sans doute par réaction contre l'uniformisation, le nivellement culturel, et de façon comparable au souci qu'on a, pas seulement chez les écologistes, de ne pas voir disparaître des espèces vivantes, qu'elles soient végétales, qu'il s'agisse d'insectes ou d'animaux. De même, des langues ne doivent pas mourir. Le professeur Agege a écrit un livre très remarquable là-dessus. Bon, il y a des grandes langues, c'est vrai. Il y a des langues qui meurent, c'est vrai aussi. Mais il y a des langues aussi qui reprennent vie. Regardez ce qui se passe en Espagne avec le catalan. Ou tout de même, maintenant, on voit très sérieusement poser la question de savoir si le catalan doit être figuré parmi les langues officielles de l'Europe, ce qui serait bien normal d'ailleurs, puisque des petits pays comme Chypre veulent que leur langue soit respectée. À dire vrai, si vous partez de l'idée que l'Europe ne peut pas avoir une organisation comparable à celle de l'Australie ou des États-Unis ou des États-Unis du Mexique ou du Brésil, parce qu'il y a cette diversité linguistique, pourquoi ne pas reconnaître tout simplement que chaque pays, même s'il est petit, comme le Luxembourg, où on fait un grand effort pour développer la langue letzebourgeoise, et chaque pays garde sa langue en premier. Ensuite, une première langue étrangère qui serait commune à tous les Européens ou les pays du bassin méditerranéen qui n'ont pas cette langue comme langue nationale.
Et c'est là que le français entre en scène.
C'est là que le français entre en scène. Et les langues régionales, prenez le breton par exemple. Nous avons, et j'en suis très fier, obtenu les premières subventions pour diffuser ou encourager l'assimile Breton sans peine. Je ne fais pas de la publicité pour cette maison d'édition, mais son travail est quand même excellent. Ses productions sont excellentes. Et le Corse. Bon, si le français devient la langue véhiculaire de l'Europe, les objections faites par certains jacobins contre le maintien ou le redéveloppement des langues régionales tombe. Je préfère à tout prendre une Bretagne bretonnante, qui n'oublie pas le breton, plutôt qu'une Bretagne américanisée. Et là, il faut bien dire une chose, c'est que le danger de l'anglo-américain ou du globish, c'est que c'est une langue très destructrice. Peut-être par son côté assez élémentaire, c'est la langue qu'on a vue, on peut parler dans tous les ports du monde avec 300 mots, et encore. Mais le français, lui, est beaucoup plus respectueux des langues. Et peut-être parce qu'il a des règles très précises, et ce français ne menace pas les autres langues. Je dirais même que, on parle, les Anglais et les Américains disent, je parle de la propagande. Il y a des Anglais qui respectent tout à fait le français, il faut le dire aussi. Eh bien, ils parlent du côté difficile du français. C'est faux, nous l'avons déjà vu. Les langues présentent à peu près toutes les mêmes difficultés quand elles sont parlées normalement et apprises par des enfants. C'est pas plus difficile pour un petit chinois ou que sais-je. Mais rien n'empêche, donc je reviens à votre question, de garder les langues régionales en même temps qu'on a une langue européenne et une langue nationale.
Les Jacobins que vous citiez à l'instant vous reprocheront de vouloir enfoncer un coin dans l'État-nation, de vouloir le disloquer par cet intermédiaire.
J'avais fait un jour, il paraît que c'est ce qui a lancé l'expression Europe des régions, une série d'articles dans le journal Le Monde que j'intitulais « De l'Europe des États à l'Europe des régions ». Le fait régional est une réalité. Le problème des artichauts bretons n'est pas le même que celui des mines de Lorraine. je pousse un peu le trait, comme on dit, mais les problèmes régionaux sont ce qu'ils sont et ils appellent des solutions régionales. Il se trouve que les régions ne sont pas seulement des structures administratives qui sont arrivées bien plus tard que la réalité des régions. Les régions existent par leur cadre géographique, par leur peuplement au temps des grandes invasions ou lorsque survit davantage l'influence primitive gallo-romaine. Bref, les régions existent, elles ont une réalité historique et culturelle. Pourquoi ne pas reconnaître cette réalité s'inscrivant dans la réalité nationale ? Je ne crois pas qu'on puisse regretter que la France soit très riche de sa diversité, comme d'ailleurs l'Europe. Le fait que la France soit celtique en Bretagne en partie, ou germanique en Lorraine, ou rhénane en Alsace, puisque ce n'est pas l'allemand en Alsace, mais l'alsacien, et ou même, pourquoi pas, flamande dans le nord de la France, une petite partie du nord de la France. J'ai demandé d'ailleurs, et j'ai obtenu il y a déjà longtemps, qu'on introduise le néerlandais dans l'enseignement secondaire, supérieur, de certains lycées ou certaines universités dans le nord de la France. Ce sont des voisins avec qui nous avons à traiter et connaître leur langue est un plus pour ceux qui parlent le néerlandais ou parlent le suisse ou parlent le suisse allemand, pourquoi pas, et ainsi de suite. Non, je crois que la réalité française, c'est d'être multiple, comme le disait le général de Gaulle. La France est multiple, disait-il. Et vouloir s'effaroucher parce qu'on parle, on met des plaques en provençal à l'entrée des villages des Alpes-Maritimes, je trouve c'est ridicule.
Jusqu'où doit s'étendre la reconnaissance de la diversité de, l'expression est un peu péjorative, de ces langues d'en bas ?
Oh, vous savez, je crains malheureusement que ce soit d'abord des efforts pour se redévelopper, mais c'est d'abord pour survivre. Je crains beaucoup que, malheureusement, les langues régionales ne soient très menacées partout. Sauf si on arrive à mieux comprendre et à trouver les moyens de faire que, tout de même, ces langues subsistent. Mais un exemple intéressant que j'ai déjà mentionné, c'est le Luxembourg. Que se passe-t-il au Luxembourg ? On a repris, sur une base scientifique, la langue locale, avec toutes ses variantes de village à village. Maintenant, vous avez un lettré bourgeois inscrit dans une grammaire, inscrit d'ailleurs sur les pièces de monnaie en euros. Vous remarquerez que c'est Lettsebourg et pas Luxembourg. Il n'empêche que le français est la grande langue de communication du Luxembourg et que même si l'allemand a aussi une place au Parlement luxembourgeois, c'est tout de même le français qu'on parle de plus en plus. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, dans le cadre du Grand-Duché de Luxembourg, que les Italiens, les Portugais et les Allemands s'expriment tous en tant qu'immigrants, immigrants ou immigrants, sans parler des Turcs ou des autres, les Arabes ou les Kabyles, en français. Et l'on voit que là, bah mon Dieu, c'est pas l'anglais. Je dirais d'ailleurs que viendrait faire l'anglais dans cette population. Non, l'Europe est riche de sa diversité. Ce que je dis des langues régionales pour la France est vrai également de toutes les autres langues régionales d'Europe. Et je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité entre une langue européenne véhiculaire, respectueuse des langues nationales et régionales.
Vous avez évoqué la légèreté des élites qui souvent se livrent au snobisme de l'anglomanie. On peut imaginer que dans une Europe livrée aussi aux quatre vents de la mondialisation, ce soit autre chose que l'anglais, qui est la langue de tous les flux, qui puisse vraiment être détrôné.
Vous savez, écoute, c'est une idée que les Anglais et les Américains, évidemment, cherchent à imposer.
Deux hommes d'affaires, un Chinois et un Brésilien, peuvent se parler autrement qu'en anglais s'ils ont un rendez-vous à Paris ?
Bah, écoutez, on a signé des traités récemment encore entre pays balkaniques en français. Ah, c'est la langue diplomatique. Mais mon Dieu, je ne vois pas pourquoi. Bien, on oublie d'ailleurs de dire une chose. L'anglais recule dans le monde entier.
Bon.
Si bizarre que ça puisse paraître, si vous prenez le pourcentage de la population mondiale qui parle anglais, il s'est réduit assez considérablement au cours des 25 dernières années. Curieusement, le français a moins perdu de terrain. Je dirais que même le français a gagné du terrain. Je sais bien, si je dis ça, vous allez dire que je vais contrairement aux idées reçues. Oui, l'Algérie, par exemple, qui cherche souvent des motifs de querelle sur cette question linguistique, des querelles pas seulement sur cette question d'ailleurs, mais considère maintenant que le français est un beau butin de guerre quels qu'ils ont gardé de notre présence. Et d'autre part, les Algériens, puisque j'ai pris cet exemple, qui étaient combien ? 8 millions quand nous sommes partis ? Bah, maintenant, sont pratiquement trois fois plus. Et de ce seul fait, la francophonie s'est accrue. Mais il est bien certain que les grandes masses que constituent la Chine ou l'Inde, l'Inde, par exemple, où 4% seulement des Indiens parlent vraiment l'anglais. On le dit pas assez. Mais je pense que, en Afrique, par exemple, le français est tout de même bien implanté, bien que certaines langues locales puissent revivre. Et d'ailleurs, Senghor, qui était l'un des cofondateurs de l'Organisation des Comités pour le Français Langue Européenne, disait « Le français aurait une vocation naturelle à devenir la langue de l'unité en Afrique », ce qui est confirmé par le fait que la première langue étrangère dans les pays lusitaniens de langue portugaise, Angola, Guinée, Mozambique, est le français. Bien entendu, les Américains font tous les efforts, nous l'avons vu en Europe centrale, pour que l'anglais évince le français et l'allemand. Car même en Europe centrale, l'allemand garde une grande importance. Et c'est pourquoi je dis, nous disons que si il faudrait vraiment considérer l'allemand comme la première langue la plus indiquée, la première langue étrangère pour la France, ce serait vrai. Quitte à considérer aussi l'intérêt d'avoir dans le sud-ouest de la France l'espagnol ou le portugais, dans le sud-est l'italien, et même dans le nord, je le disais, le néerlandais. Et nous avons là...
Et l'anglais nulle part.
Pas du tout, il y a une place pour l'anglais. Mais l'anglais, puisqu'on dit qu'il est si facile, peut très bien être appris comme deuxième langue étrangère ou troisième. Vous savez...
Mais dans n'importe quel entretien de recrutement pour un jeune qui sort d'une école de commerce, par exemple, même pour un journaliste,
c'est
l'anglais
est, parce qu'on fait l'impasse
obligatoire.
En disant, bien entendu, c'est l'anglais qui va dominer en Europe. Reste à savoir si c'est si vrai que cela. J'en suis pas sûr du tout. Regardez ces réactions qui se font. Bon, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, chez qui le français était la première langue étrangère, ont choisi l'anglais. Il y a 2 ans ou 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on voit qu'en Espagne, ils commencent à s'interroger sur le bien fondé de cette affaire, de ce choix. Et qu'ils recommencent à penser, ce qui est assez logique, que pour des latins, il est beaucoup mieux d'apprendre le français, beaucoup plus facile en tout cas, et que bon, l'anglais est si rudimentaire souvent, que, mon Dieu, on peut l'apprendre facilement en troisième position. Ça n'est pas du tout irréaliste. Et d'ailleurs, au fond, dans cette question des langues étrangères, en dehors de l'affaire, de la considération de la nécessité à travers l'Europe d'avoir un idiome commun, qui a vraiment besoin d'une langue étrangère ou de l'anglais, en dehors de ceux qui ont un métier qui les pousse à des conversations avec des Anglais ou des Américains ou même avec d'autres personnes. Quelle est la nécessité, si c'est pour parler à des touristes, pour des touristes de parler à des réceptionnistes dans un hôtel, ça n'est pas grave, mais généralement ils parlent aussi plusieurs langues. Non, je crois qu'il faut se défaire des idées toutes faites, que les tenants de l'anglais veulent répandre en disant que, pardonnez-moi pour la familiarité de l'expression, les carottes sont cuites. Non, les carottes ne sont pas cuites et ça reste ouvert. Bien entendu, si on avait réglé la question avec la Constitution, ce serait mieux.
On va aborder le volet des solutions dans un instant.
Canal Académie.
Eh bien, c'était un intermède, tout simplement. Bah, un intermède, c'est aussi le terme que l'on peut employer peut-être pour le français, puisque le français a été effacé, en quelque sorte, en qualité de première langue européenne avec la guerre 14-18. Et vous espérez, Hervé de l'Avenir de Buffon, que le français retrouve ses lettres de noblesse à l'échelle européenne. Ce n'est pas un rêve inconcevable, puisque c'est la question de l'identité qui est au cœur de ce débat.
Je crois même que l'enjeu est plus vaste. L'avenir du français dans le monde comme langue internationale passe certainement par l'Europe. Et si vous voulez, vous avez évoqué la fin de la guerre de 14-18, où le président américain Wilson a exigé que le français perde son privilège de langue diplomatique et où Clemenceau a commis l'erreur, n'est pas la seule qui l'ait commise sans doute, d'accepter cela. Mais pourquoi ? Parce que l'Europe était effacée, avait perdu sa prédominance dans le monde, la superpuissance américaine commençait à s'affirmer, et c'est ainsi que le français...
Mais la France était victorieuse.
Mais oui, mais elle n'a pas su, et la pauvre, elle était un peu épuisée par cette guerre. Il faut bien dire que la catastrophe de 40 tenait aussi du fait que la France avait été saignée à blanc. Et bref, l'Europe perdant sa puissance et sa prédominance, la langue naturelle de l'Europe a perdu aussi sa prédominance. Et il est bien certain qu'à partir du moment où l'Europe s'affirme, le français, où ça virmera, reprendra son importance. Un petit exemple. Quand, et là je dois dire, j'en suis reconnaissant au président Chirac, la France s'est affirmée comme différente par sa position sur l'Irak des États-Unis, approuvée d'ailleurs cette politique française par la plupart des opinions européennes, même en Pologne où le gouvernement a cru bon de soutenir l'action de Monsieur Bush, eh bien, on a vu le français reprendre de l'importance dans certains pays. Bien sûr, on dira que si on a vu apparaître des stations de radiodiffusion, de télévision nouvelle dans le monde arabe, c'était directement lié à cela. Mais à partir du moment où la France, et l'Europe surtout, représente une troisième voie différente de celle de l'Amérique, il est bien certain que ceux qui jugent sans a priori se disent que une Europe de 450 à 500 millions d'habitants, si elle a une langue véhiculaire qui soit le français, non pas l'américain, cette Europe donnera aux Français un rôle mondial nouveau et qui mérite bien. Nous ne sommes pas, comme le sont certains tenants de l'anglais, avides d'effacer les autres langues. Un jour, par image, je m'avais demandé de faire un article justement sur la guerre qui oppose les adversaires du français à ses tenants. Et je citais ce que m'avait dit un sénateur américain, disant « Il y a 6000 langues dans le monde, ça fait 5999 de trop. » Alors je lui ai dit « Je ne savais pas que vous aimiez tellement la langue française. » Il m'a répondu, il n'avait pas dû comprendre la plaisanterie. « Non, je parlais de l'anglais. On s'en serait douté. » D'ailleurs, était-ce l'anglais ? Non, ce n'est pas l'anglais. Les vrais tenants de l'anglais commencent à déplorer que la langue anglaise, celle de Shakespeare, soit si massacrée par le globish ou l'anglo-ricain international.
L'anglais est victime à sa manière de son expansion.
Oui, nous avons d'ailleurs un comité écossais pour le français, langue européenne, et qui disent, ils ne défendent pas l'Erse comme langue européenne, le celtique d'Écosse, non, mais ils disent, le bon anglais est très menacé par cette langue. Il est certain d'ailleurs que si le français devient la langue véhiculaire de l'Europe, il y aura un danger de voir cette langue connaître des variations régionales, comme d'ailleurs le français varie d'un pays à l'autre, de la francophonie, surtout celle d'outre-mer, enfin d'autres continents. Mais je pense que, d'ailleurs c'est une idée que nous avions lancée qui vaut ce qu'elle vaut, s'il y avait un jour dans les pays, divers pays de l'Union européenne, des académies de langue française, comme il y a une académie royale de langue et littérature française en Belgique, pourquoi pas ? Chacun pourrait d'ailleurs apporter à la création des nouveaux termes qu'exige l'apparition de nouvelles réalités, qu'il s'agit d'objets, de choses, de concepts ou d'idées, ce serait très utile. Vous savez, le français a souffert de ne pas arriver à temps dans la découverte de certains mots. On a trouvé ordinateur au bon moment, plus personne ne le discute. Dopage a remplacé doping.
Computer, même non.
Oui, et encore, on aurait pu franciser à la façon des Espagnols qui écrivent football, F-U-T-B-O-L, puisque le U se prononce ou en espagnol. Non, mais ce qu'il y a, et c'est quand j'ai demandé à M. Pompidou de créer le Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française, notre rêve, je dis notre parce que je n'étais pas seul, était de faire apparaître une conscience linguistique au niveau du gouvernement et des administrations. Que rien ne se fasse, réunion internationale, apparition de nouvelles dispositions dans tel ou tel domaine scientifique ou technique, sans avoir aussi le souci de la langue. Eh bien, malheureusement, je dois dire que le Haut Comité, puisqu'il est devenu ensuite Haut Comité de la langue française, on a retiré défense et expansion, mais l'esprit y est. Je trouve que ce souci linguistique, cette conscience linguistique, on ne la trouve pas. Mais ça, tout de même, il y a des progrès, il faut le dire.
On ne la trouve pas en France, mais à Bruxelles, est-on sensible à vos arguments ?
Ah oui, je peux vous dire que parmi les fonctionnaires de la communauté de la Commission européenne, il y en a de très nombreux qui ne sont pas du tout d'accord avec le forcing ou le forçage linguistique que veulent faire les tenants de l'anglais, qui sont d'ailleurs en dehors des Britanniques, pas tous d'ailleurs. Les Anglais n'ont pas le monopole des défauts, et n'ont pas que des défauts dans ce domaine. Mais enfin, on peut dire que certains Scandinaves poussent un peu loin, même si certains Danois, par exemple, deux anciens ministres des Affaires étrangères, écrivaient encore récemment « Il ne faut pas que l'anglais domine en Europe ». Et vous savez, c'est une idée qui se rend plus... qui se développe de plus en plus. Je ne le dis pas pour croire, pour prendre mes voeux pour des réalités, mais c'est vrai.
Est-ce que l'on peut imaginer que la question de la langue de travail commune, puisse être traitée indifféremment de la question stratégique qui consiste à décidément bien situer le rôle et la place de l'Europe par rapport aux États-Unis ?
Mais bien sûr, toute la question est là. Vous avez 100 000 fois raison de poser cette question. L'avenir de l'Europe passe par une condition nécessaire, son émancipation, émanciper l'Europe, que ce soit sur le plan linguistique, culturel, sur le plan politique. Il ne s'agit pas d'être hostile aux États-Unis, mais il s'agit de se rappeler, comme le disaient nos anciens, que quand on est près du feu, très près du feu, il faut faire attention aux brûlures. Avoir des relations avec les Américains, oui, mais ne pas se laisser américaniser, ça, 100 fois non. Eh bien, je pense que à partir du moment où l'Europe saura s'émanciper, sur tous les plans, à commencer par le plan économique, par le plan linguistique et culturel, et politique aussi, son avenir sera assuré. Mais si elle veut rester sous tutelle, eh bien, évidemment, il ne faut pas oublier ce qu'écrivait M. Berzinski, le conseiller de 3 ou 4 présidents américains, l'OTAN est pour nous le meilleur... L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est pour nous le meilleur moyen de contrôler l'Europe. Or, control, to control en anglo-américain, ça ne veut pas du tout dire contrôler, ça veut dire tenir sous sa...
Ça ne veut pas dire vérifier, ça veut dire...
Ça veut dire tenir en main, dominer,
tenir, en main.
Tenir sous sa griffe.
Une question de pouvoir.
Eh bien, vouloir l'Europe, ça n'est pas certainement accepter que l'Europe ne soit pas émancipée. On commémore en ce moment... le triste traité d'Yalta. L'écroulement du mur de Berlin a permis à l'Europe de l'Est de s'émanciper des conséquences de Yalta, c'est-à-dire de la domination par l'URSS. Est-ce que l'Europe de l'Ouest s'est émancipée de la domination par les États-Unis ? Il faut bien appeler les choses ce qu'elles sont, c'est une domination. Bien, tant que cette domination, cette émancipation de l'Europe ne sera pas faite, l'Europe ne sera pas vraiment ce qu'elle doit devenir.
Les États-Unis qui ont plutôt marqué des points en Europe de l'Est.
Oui,
relativement.
L'Europe de l'Est commence à se rendre compte que c'est pas tout de même très européen ni très utile de demander plus de milliards à l'Union européenne et d'acheter des avions américains. Monsieur Barnier, d'ailleurs, l'a dit très justement l'autre jour à Bucarest. Si vous avez le réflexe américain avant d'avoir le réflexe européen, ce n'est peut-être pas très heureux pour votre intérêt dans l'Union européenne. Et il avait 100 fois raison. Les Roumains, d'ailleurs, ont dû comprendre, je l'espère, la valeur de l'avertissement.
Donc il y a une prise de conscience collective.
Il faut l'encourager, elle naît, elle se développe, mais elle n'est pas encore suffisante.
Merci beaucoup Hervé L'Avenir de Buffon. Merci d'avoir éclairé notre intelligence à propos de cette question cruciale européenne, la question linguistique, quelle langue de travail commune. Vous êtes secrétaire général du Comité pour le français langue européenne et je rappelle aussi que vous êtes président du Centre d'études et d'action européenne et du Comité pour la Méditerranée. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.